Moi qui suis d'un naturel anxieux, j'ai tendance à redouter l'avenir. Pour contrebalancer cette inquiétude, je prononce alors la citation du philosophe Henri Bergson « L'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. » Car je crois que nous sommes maîtres de notre destin et que ce qui caractérise l'homme est le libre arbitre. Au fait, est-ce que les animaux ont leur libre arbitre? Bon, nous réglerons cette question plus tard. Toujours est-il que je n'ai pas de vision déterministe du futur et je ne crois pas au sens de l'histoire. Comme Shakespeare, je pense que la vie est une histoire racontée par un idiot, pleine de fureur et de bruit, et qui ne signifie rien. Je pense que la réalité est en perpétuelle création. Si, peu ou prou, on peut maîtriser l'avenir, je n'en dirai pas autant du passé. Nous n'avons pas encore inventé la machine à remonter le temps, malgré l'existence du carbone 14. Cela dit, si l'on ne peut pas changer le passé, on peut l'explorer. Il y a même des personnes dont c'est le métier. Les historiens, les archéologues, les généalogistes. Arrêtons-nous sur ce dernier métier. Le généalogiste recherche dans le passé familial de celui qu'il a mandaté, avec tous les risques que cela comporte. On met au jour des ancêtres que l'on aurait peut-être dû ne jamais connaître. Vous imaginez découvrir que vous êtes un des arrière-petits-enfants de Landru ? Il a eu 4 enfants. Comme disait Françoise Sagan, on ne sait jamais ce que nous réserve le passé. Lorsque je n'étais encore qu'un enfant, je devinais, sans savoir pourquoi, que mon grand-père maternel était suspicieux envers le maire du village où était située la maison familiale. Quelques années plus tard, lorsque je devins un adolescent s'intéressant à l'histoire, je découvrais que ce maire était le descendant d'un révolutionnaire enragé qui s'était attribué les biens confisqués à l'Église, qui ont été appelés abusivement les biens nationaux. C'était sans doute injuste vis-à-vis de cet édile qui n'était pas responsable de ce qu'avait fait son aïeul. Mais allez savoir s'il ne se donnait pas l'obligation morale d'être solidaire de ses ascendants et de justifier la spoliation ne serait-ce que pour conserver les biens mal acquis. Il y a des souffrances muettes, des non-dits et des traumatismes qui se transmettent d'une génération à l'autre. Les enfants deviennent dépositaires sans le vouloir. C'est le cas des descendants de persécutés. Plus tard, une fois que l'enfant est en âge de comprendre, la question se pose, que faire de cet héritage? C'est ce que nous allons voir avec ce soir Emmanuel Friedman, qui est mon invité, et qui vient de publier « Après la Shoah », un livre édité chez Une Autre Voix. Emmanuel Friedman, bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, présentez-vous.
Alors, je suis auteur. De romans historiques, de documents aussi, d'actualité, et scénariste de romans graphiques et également journaliste.
De romans graphiques,
voilà.
C'est-à-dire avec des...
Romans graphiques, c'est un petit peu comme les bandes dessinées, mais avec un format plus libre.
D'accord. Pour adultes ou pour...
Oui, pour adultes aussi, ouais. Sur des questions aussi de société.
Des questions de...
De société.
De société. Par exemple
voilà. Par exemple, le TDAH, le trouble... Vous savez, le trouble de la...
TDAH. Trouble du comportement, non
enfin,
TDAH.
Non, le fait d'avoir du mal à se concentrer sur des, pour les enfants, qui est très à la mode en ce moment. Et puis également sur la monoparentalité, par exemple.
Donc c'est un peu éducatif aussi, alors.
Ce sont vraiment des romans. Hein.
Ce sont des romans.
Des fictions, oui.
D'accord.
Voilà.
Donc on peut les trouver dans les bonnes librairies.
Tout à fait.
Très bien. Mais ce soir, nous allons parler pour une question plus grave, on va dire. Après la Shoah, alors qu'est-ce qui vous a donné le déclic, envie d'écrire ce livre ?
La première chose, déjà, c'est le fait d'avoir fait un livre sur mon père qui était enfant caché pendant la guerre. Donc ça, c'était un roman, mais avec des éléments réels.
Enfin, autobiographiques.
Voilà, autobiographiques. Et également l'impression d'avoir hérité de certaines peurs, de certaines choses difficilement nommables, justement hérité de la Shoah et en tout cas de cette période de guerre. Et aussi peut-être l'envie de pouvoir couper ses forts, mais de pouvoir essayer d'expliquer à mes enfants qu'on pouvait faire autrement. Enfin, que, par exemple, il pouvait y avoir un héritage gay. Voilà.
De la revenir. Et alors, précisons que vous êtes juive, mais de père.
Voilà. Donc,
votre père a il a été persécuté. Il était.
Mon père était enfant pendant la guerre, donc il a été. Oui, il a été enfant. Il a été caché, ce qu'on appelle enfant caché.
Enfant caché. Voilà,
caché par un pasteur dans l'Oise.
Son propre père, donc grand-père, a été interné dans.
Alors, mon grand-père a été était résistant de la première heure. Il était communiste aussi et. Il a été d'abord emprisonné et puis ensuite fusillé, pris en otage et fusillé par les Allemands.
Mais lui, il n'a pas connu les camps.
Non, il n'a pas connu.
Votre père, donc, était enfant caché. Il avait quel âge au sortir de la guerre ?
Il avait, il avait 9 ans, quoi. Mais quand il était caché, oui, il avait entre 8 et 9 ans. Voilà. Il avait 8 ans quand il a été caché, quoi. Mais
vite orphelin.
De père, voilà. Ma grand-mère a survécu à la guerre.
Et en âge de comprendre, parce qu'à 9 ans, on comprend beaucoup de choses.
Oui, bien sûr. Ouais. Il portait l'étoile quand même. Donc, oui,
ça,
bien sûr.
Ouais. Oui, en plus, oui. Et donc, vous êtes une de ses filles. Voilà.
Son unique fille, d'ailleurs.
Son unique fille. alors, sans être trop dans la biographie victimaire, vous avez ce qu'on appelle, votre père avait déjà le syndrome du survivant,
tout à fait.
Et vous en avez hérité. Alors, expliquez-nous ce phénomène.
Mon père était très angoissé sur, il y avait des choses qui l'angoissaient, mais qui n'étaient pas rationnelles en fait. Par exemple, le fait de partir en voyage, de prendre un train, la peur systématiquement d'oublier quelque chose. La peur de l'inconnu, la peur du changement. Donc, moi, je l'observais quand j'étais enfant et je trouvais que c'était pas rationnel et pas normal. Et en même temps, je pense que j'ai hérité de beaucoup d'une espèce de forme d'angoisse, sans doute un peu proche de celle qu'il ressentait. C'est-à-dire, effectivement, l'héritage du syndrome du survivant. Pourquoi on a survécu ? On se l'explique difficilement.
Ceci dit, les symptômes, comme vous dites, d'avoir peur de partir, de prendre un train... C'est pas propre à des enfants de persécutés, parce que moi, par exemple, j'ai toujours peur. Quand je pars de chez moi, je regarde 10 fois si le gaz est bien éteint.
C'est un détail, mais après, je pense que c'est surtout...
C'est un comportement général.
Ouais, c'est un comportement général, une espèce de peur systématique de toutes les choses de la vie, d'être rassuré systématiquement, la peur de l'enfermement, la peur systématiquement de faire des choses et d'essayer de les faire quand même, l'impression que comme on est un survivant, on n'a pas le droit à une espèce de médiocrité, mais qu'on doit forcément réussir des choses.
Se justifier, effectivement, systématiquement.
Ouais, c'est difficile à définir parce que chacun a sa propre façon d'hériter de ce traumatisme. Mais effectivement, mon père répétait sans arrêt, racontait sans arrêt cette histoire, mais en même temps, il ne la racontait pas de façon linéaire, il la racontait en bribes.
Par épisode.
Ouais. C'était très difficile pour moi d'en faire une chronologie, de comprendre exactement ce qui s'était passé.
À partir de quel âge vous vous êtes rendu compte de son histoire dramatique.
Je pense que assez rapidement j'ai compris que déjà il manquait un grand-père, donc j'ai bien compris que il était
normal vis-à-vis des petits camarades. Grand-père.
Alors bon, j'avais des grands-parents de l'autre côté, mais du côté de ma mère, mais j'avais une grand-mère, mais effectivement, il me manquait ce grand-père où on avait très peu de photos. Il y avait toujours la même photo partout, chez mes oncles, chez mes tantes, chez ma grand-mère. Il y en avait très peu. C'était toujours la même. Et effectivement, j'ai appris qu'il avait été fusillé, j'ai appris qu'il y avait eu la guerre, mais c'était difficile de mettre les choses bout à bout. Je pense qu'à 9-10 ans, j'ai...
Le puzzle n'est pas encore complet.
À 9-10 ans, j'ai commencé à comprendre ce qui s'était passé, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la Shoah, j'ai vu des films, mon père m'avait emmené voir un film...
Nuit et brouillard, non ?
Non, Nuit et brouillard, je l'ai vu bien plus tard. C'était Au nom de tous les miens à l'époque, qui sortait à ce moment-là. Et voilà, et donc j'ai commencé, je crois que j'ai mis les choses un peu près bout à bout.
Vers 10-12 ans, déjà, vous aviez conscience des atrocités où il vous épargnait. Parce qu'il y a aussi le côté, est-ce qu'on doit épargner ou est-ce qu'on doit tout dire à un enfant?
Alors en fait, il y a une phrase de Boris Cyrulnik qui explique bien ça, qui dit « Si je raconte mon histoire, je traumatise mes enfants, et si je ne parle pas, je les angoisse.
Voilà. »
Donc en fait, quand il parle, c'est terrible, mais finalement quand il ne parle pas, ce qu'il ne dit pas, c'est presque pire. Donc,
les non-dits, on s'imagine.
Je pense qu'on est pas mal d'enfants, d'après la Shoah, à avoir cette impression... d'avoir eu des visions, des visions de, des camps de concentration, ouais. des visions de... sans qu'on nous l'ait vraiment expliqué. C'était comme si les morts étaient autour de nous. Il y a une des personnes que j'ai interviewées qui explique, et pourtant, elle, c'est en conclusion, c'est de la troisième génération, qu'elle voit des morts, en fait. Qu'elle voit les gens qui ne sont pas là. Qu'elle sent leur présence. C'est terrible hein, de penser ça. Et moi, je pense que je l'ai ressenti très longtemps, cette espèce de pesant... Enfin, de fait très pesant de vivre auprès des morts, enfin auprès des gens qui n'étaient pas là, quoi. Avec les gens qui n'étaient pas là.
Il y a eu un grand silence pendant pas mal d'années après-guerre, au nom de la réconciliation. On ne parlait pas de ces choses-là, pratiquement pas. Enfin, je parle dans le grand public. Et à partir de quand, vous êtes rendu compte de ce qu'avaient subi les Juifs pendant la guerre ? Parce que vous pensiez que c'était peut-être que votre père. Après tout, quand on est enfant, on a l'impression que on est. D'ailleurs, vous le dites, à un moment, vous pensiez être différente. Vous ne saviez pas trop pourquoi. Et puis finalement, on voit que ça a été quand même une période.
Je pense que dans les années. Alors, moi, j'étais très petite dans les années 70, mais dans les années 80, on a commencé à en parler beaucoup. Donc, je pense que ce qui était difficile, c'est. Notre non-appartenance, c'est-à-dire mon père était juif, mais il n'était pas du tout religieux. On était juif, mais c'était quoi ?
Qu'est-ce que ça changeait pour vous ? Rien.
Ouais. Voilà, à part le fait d'avoir perdu
vous
mon grand-père.
Pratiquant.
Voilà, il y avait de voir ma grand-mère et de temps en temps mes cousins ou mes oncles et mes tantes. Il n'y avait pas tangiblement, il n'y avait que la Shoah, quoi, que l'histoire. Et donc, dans les années 80, on en parlait beaucoup. Il y avait quand même des films, il y avait quand même Holocauste qui passait à la télé. Il y avait, au nom de tous les miens, on passait effectivement dans les collèges et dans les lycées, on passait Nuit et brouillard. On en parlait quand même. Donc, assez vite, j'ai raccroché le fait que ce n'était pas ma famille, mais les Juifs.
À partir de ce moment-là, vous avez compris que c'était pour des raisons religieuses.
Alors, c'est... Bon, judaïté ou le judaïsme, c'est pas que de la religion, c'est pas que la religion, c'est vraiment c'est une appartenance à un peuple, c'est
un peuple.
Une culture, c'est voilà. Mais c'est vrai que c'est Finkielkraut qui explique ça très 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 bien, qui explique que ce judaïsme qui était très
ça se dit la judaïté.
Ou on peut le dire, moi, je pense. Qui était très diversifié, c'est-à-dire il y avait des gens qui allaient à la synagogue, il y en a qui n'y allaient que de temps en temps, il y en a qui discutaient, qui étaient de gauche, qui étaient de droite, qui étaient... Elle a été effectivement massacrée, tuée pendant la Shoah, c'est-à-dire que d'un seul coup, on s'est dit, il y a des juifs religieux ou il y a des juifs qui sont athées, mais
ils sont juifs.
Il n'y a plus cette diversité que
la religion en elle-même. Parce qu'effectivement, je fais le parallèle, il y a des gens qui se disent de culture chrétienne, mais qui ne pratiquent pas et qui ne sont pas religieux.
Exactement.
Cette conscience d'être juif, vous la décrivez dans le livre. Il y a un passage que je vais lire, si vous permettez. Vous êtes encore enfant, et voilà ce que vous dites. « Je me souviens, d'ailleurs, de mon désarroi. Une fois, lorsqu'à l'école primaire, une camarade m'avait demandé de quelle religion j'étais. Je savais que nous n'étions pas catholiques, puisque je n'allais pas, contrairement à la majorité de mes camarades, ni à l'église, ni au catéchisme, ni au scout. Mais je n'étais pas capable de répondre. Dans cette question, il y avait quelque chose qui me laissait penser que cette petite copine avait mis le doigt sur notre différence. Je me souviens d'avoir eu le sentiment d'avoir été débusqué. Cet épisode a été l'occasion de demander quelques explications à mes parents et a sans doute un peu clarifié la situation. » Donc, vous revenez de l'école et là commencent les questions. Voilà, c'est les enfants.
C'était à l'école primaire.
Ouais.
Ah oui. Ouais, c'était à l'école primaire, effectivement. Et il y avait. Je me souviens que la plupart de mes camarades allaient au catéchisme et à l'église et que moi, j'étais un peu étonné de ne pas pouvoir y aller.
Mais qui vous mettait de côté ? C'est l'école ou c'est
mes parents qui ne voulaient pas que.
Alors, les scouts, je comprends parce qu'on n'est pas obligé d'y aller. Mais donc, c'était une école religieuse ?
Non, c'était une école publique.
Ah, d'accord, oui, il n'y avait pas de messe obligatoire.
Pas du tout. Mais
j'aurais pu penser que c'était une école religieuse.
Quand vous avez tout vos. Enfin, la plupart de vos camarades qui y vont...
Effectivement, il y a longtemps, parce que moi...
C'est une espèce de curiosité. Ça dépend des banlieues où vous habitez. Enfin, moi, j'habitais dans une banlieue qui était plutôt bleu marine. Et du coup, c'était une espèce de non-appartenance à la majorité. Ils se retrouvaient tous les dimanches, ils se croisaient.
J'étais élevé dans une école catholique. Donc, c'est effectivement habituel, mais on avait la messe obligatoire, donc on ne se posait même pas la question, c'était comme un cours. Donc c'est pour ça que je me permets de vous poser la question, parce que aujourd'hui, les petits-enfants dans les écoles, je pense qu'il n'y a pas beaucoup qui vont à la messe.
C'est plus du tout la même chose, mais moi, je me souviens que le lundi, par exemple, il racontait qu'il s'était vu le dimanche. Voilà,
dans des activités scouts, et vous étiez... Ça vous trottait dans la tête, parce qu'un enfant, il veut ressembler à ses petits camarades.
Oui, je pense que j'avais beaucoup de curiosité. Après, je sentais aussi qu'il y avait un devoir de ne pas le faire, parce que du coup, il ne fallait pas... Il ne fallait pas aller contre cette espèce d'héritage que je ne comprenais pas forcément. Voilà, nous, on n'y allait pas, quoi. Nous, on ne pouvait pas y aller et c'était pas, j'avais pas le... Ouais, je ne devais pas y aller, quoi. Je n'avais pas le droit d'y aller, quoi. Voilà, je sentais.
Enfin, pas le droit, c'est une façon de voir les choses. Ouais. Donc, je n'étais pas obligatoire, c'était pas une obligation. Et alors, cette conscience d'être... c'est là où vous avez eu conscience d'appartenir au peuple juif.
Oui, je pense que je l'ai pris. Alors après, aussi, dans les lectures, c'est le moment où on lit des livres type le journal d'Anne Frank, Mon ami Frédéric, enfin voilà, tous ces livres-là qui ont fait espèce de conscience, dans les années 80. Donc effectivement, j'ai pris conscience. Après, mon père m'expliquait que le judaïsme se transmet par la mère et que donc je ne l'étais pas, mais c'était compliqué quand même parce que quand vous portez un nom juif, vous êtes systématiquement identifié comme tel. Et qu'en fait, vous n'êtes pas forcément reconnu par les juifs qui sont religieux. Ouais. C'est assez compliqué de trouver son équilibre. C'est un peu...
Oui, c'est la double peine.
Voilà, c'est un peu la double peine.
Vous appartenez pas totalement, votre nom, vous êtes étiqueté. Oui, je comprends. Oui, effectivement.
Et d'ailleurs, c'est vrai que les gens que j'ai interviewés dans ce livre, après la Shoah, qui sont dans la même situation... Ils ont du mal à retomber sur leurs pieds quand même, à se dire oui, non, je le suis pas. Bon, moi, j'ai tendance à dire maintenant que si je décide que je le suis, je le suis. Et puis tant pis. Enfin, après, je comme pour moi, ce n'est pas que la religion, je peux aussi considérer que c'est une appartenance que je choisis. C'est ce qu'explique aussi Anne Goscinny dans le livre d'ailleurs.
Oui, alors je précise pour les auditeurs que c'est un livre qui comporte moult témoignages parce que vous avez interrogé une trentaine de personnes, c'est ce que j'ai cru compter, une trentaine de personnes, alors toutes pas forcément... juif, j'allais dire, comme vous, parce que Berléand, par exemple,
il est comme moi, je crois.
Donc, mais qui ont un lien et qui ont un parent ou les deux qui ont subi les traumatismes, enfin, qui ont plus.
Oui, l'idée, c'était vraiment d'interviewer des gens qui avaient soit des parents enfants cachés, soit qui étaient résistants, soit qui avaient été déportés, mais enfin, qui avaient un lien et de la deuxième génération. Donc vraiment, les parents, les grands-parents aussi, mais au moins les parents.
Les parents, comme vous, à un degré. Et ce qui est intéressant, c'est comment ils perçoivent cet héritage douloureux. Parce que, alors ça, vous l'expliquez très bien, c'est le dilemme entre l'effacer, mais au risque de cacher quelque chose, comme vous le dites très bien, c'est les enfants sentent les non-dits, ou alors de tout dire, mais en même temps de faire porter encore sur la génération d'après des traumatismes qui peuvent aussi les endommager le subconscient, quoi. Alors vous, par exemple, avec vos enfants, comment vous vous comportez? Je pense que déjà, ils s'en doutent, puisqu'ils ont lu, j'espère qu'ils ont lu. Mais souvent, ce qui est drôle, c'est qu'on est nul n'est prophète dans son pays.
Ils sont petits, ils sont très petits, ils ont 10 ans.
Quand même.
Mais ils sont un peu...
petits. Je vous rappelle que c'est à l'âge où vous-même, vous avez compris beaucoup de choses.
Oui, c'est vrai, mais bon, on n'est pas dans la même... on n'est pas quand même dans la même... dans la même société qu'effectivement. Donc, je crois qu'ils ont compris. Je leur ai expliqué. Quand mon livre Jacques l'enfant caché est sorti, ils étaient en maternelle. Mais ils ont compris que je parlais de leur grand-père qui n'était plus là. Donc, c'était aussi une façon de leur parler de leur grand-père. Donc, je pense qu'ils ont compris. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Ça, c'est quelque chose aussi que j'évoque. C'est-à-dire... Je me pose la question moi-même d'un espèce de retour au judaïsme par le biais des libéraux, par exemple. Mais alors, du coup, je me dis, bah, c'est compliqué parce que si j'y vais, bah, j'emmène mes enfants. Et en même temps, je trouve que c'est dangereux pour eux de dire qu'ils sont juifs dans l'école,
en ce moment.
Dans une école publique. Donc, c'est très compliqué pour moi de leur dire, alors, soyez heureux d'être juifs et fiers. Et en même temps, à l'école, surtout, on n'en parle
c'est
pas.
C'est le dilemme entre... Fierté ou discrétion.
Discrétion. Ouais. Et c'est très compliqué. Après, je pense qu'ils ont compris. Depuis le 7 octobre en particulier, je leur ai bien expliqué qu'il fallait être discret. Mais oui, je pense qu'ils ont, compris. Après, je ne leur ai pas parlé pour le moment, disons, concrètement des camps de concentration. Voilà, je trouve qu'ils sont trop petits. Ouais. Mais je vais le faire. Et j'ai évoqué tout doucement, ils ont regardé un magnifique dessin animé qui s'appelle Les grandes vacances d'été, où on explique bien ce qui se passe pendant la guerre. Donc, voilà, c'est...
Je vais lire un passage, justement. Pendant l'écriture de mon livre, Jacques, l'enfant caché, donc ça c'est votre père, qui évoquait l'histoire de mon père, j'ai retrouvé la famille du pasteur qu'il avait cachée. J'avais eu le sentiment que mon père avait été très malheureux durant ces presque 2 ans passés dans cette maison d'enfants. Il était, bien sûr, très reconnaissant envers le pasteur Jousselin qu'il avait sauvé. Mais, séparé de sa mère pour la première fois, il était terrifié, la sachant seule à Paris, de ne pas savoir si elle était encore vivante. Il ne parvenait pas à s'adapter à cette vie en collectivité. J'avais été bouleversé de voir que l'un des fils du pasteur, à peine plus âgé que mon père, se souvenait avec bonheur de cette période, des jeux scouts proposés, de la liberté qu'avaient les enfants. Il comprenait que mon père soit inquiet, mais dans son souvenir, les enfants étaient en sécurité et n'avaient pas peur. Je regrette que mon père n'ait pas eu l'occasion de retrouver la famille Jousselin. Je pense qu'il aurait pu cicatriser ses douleurs en entendant leurs souvenirs. C'est comme s'il m'avait laissé accomplir ce travail d'apaisement. Donc vous avez retrouvé cette famille. Et eux, au contraire, pour eux, c'était des souvenirs d'enfance assez joyeux.
C'est une famille qui est formidable, hein, les Jousselin. Alors, bon, évidemment, le pasteur n'est plus là, mais donc les enfants sont d'une modestie incroyable. C'est-à-dire qu'ils disent, bah oui, on a fait de façon tout à fait normale un truc peut-être un peu exceptionnel. On a caché 84 enfants, mais bon, ça s'est bien passé, il n'y avait pas de danger. On n'a pas senti grand-chose. Bon, dans les faits, ce qu'ils ont fait, enfin ce que le pasteur a fait, c'est vraiment incroyable. Et oui, je regrette beaucoup que mon père n'ait pas eu l'occasion de les rencontrer. Je pense que dans les souvenirs du fils du pasteur que j'ai rencontré, donc j'en ai rencontré deux. L'un est né après, donc il n'a pas connu. J'ai rencontré aussi une des sœurs, une des filles du pasteur aussi à un autre événement. Mais elle était vraiment bébé, donc je crois qu'elle est née après aussi. Mais en tout cas, lui, ce dont il se souvenait, c'est que son père était tellement occupé que finalement, les enfants, ils étaient libres, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, s'ils ne faisaient pas leur devoir, ce n'était pas grave. Donc, il se souvenait de cette liberté, de tous les jeux scouts, du fait de pouvoir grimper aux arbres. Oui, pour lui, c'était vraiment...
C'est dans quelle région ?
C'était dans l'Oise. À Verbeury, un village.
C'est sous l'occupation.
Ouais. Et à Verbeury, tout le monde savait. Enfin, c'est pas possible et personne n'a parlé. Enfin, c'est quand même.
C'est beau.
C'est très beau. Ouais.
Parce qu'on parle toujours des lateurs, etc. Mais heureusement,
il y a eu
des choses. Très beaux gestes et des gens courageux. J'ai un message, les auditeurs, bien sûr, c'est en direct, donc ils peuvent écrire des messages ou poser des questions à mon invité. Bonsoir à tous. Au nom de tous les miens que j'ai regardé aussi à la télévision, a été écrit en fait par Max Gallo.
Ah bon ? Oui, c'est vrai, c'était le. Oui, il a aidé.
L'histoire du vrai Martin Gray est assez différente. Il n'est jamais parti pour les camps en se cachant dans la Varsovie. Aryenne.
Oui, je pense qu'il y a eu je me souviens vaguement qu'il y a eu une polémique là-dessus, mais bon.
Je me souviens que le souvenir du génocide dont personne ne parlait vraiment auparavant a déferlé sur les écrans à partir de 1980. Oui, c'est à peu près moi. Enfin, moi, mes souvenirs, c'est aussi à cette époque-là.
Oui.
Avant, bon. Puis moi, je suis de la même génération que vous, donc mon père ayant fait la guerre, il parlait de sa guerre. Mais il en parlait, et puis vous savez, quand les enfants ils sont taquins, on disait, oh, papa, il radote, quoi, il raconte toujours. Puis une fois qu'il est plus là, bah, j'ai su que c'était un héros des cadets de Saumur. Donc les premiers, les premiers ou les derniers, si on veut, mais avoir défendu la Loire à Saumur. Donc maintenant, j'aurais bien aimé lui poser des questions que je ne peux plus poser. Et moi, je me souviens, bon, ben bah, voilà, on en parlait un petit peu, mais pas tellement. C'est à partir du moment où bah, la génération concernée commence à disparaître qu'on cherche des témoignages. Mmh. C'est l'histoire. C'est-à-dire que forcément, c'est comme le dernier combattant de 14-18, on les a recherchés, ils étaient centenaires dans les... Ouais. Voilà, et puis... mais cette génération... Qui a vécu la guerre, ils n'en parlaient pas tellement. Pour eux, c'était, voilà, c'était leur vie. Alors, soit ils étaient pudiques, soit ils, bah, comme tout le monde l'avait vécu, chacun...
Je pense que c'est difficile aussi hein, de trouver les mots pour raconter, de trouver le moment de le raconter, de trouver cette chronologie. Je pense que c'est très difficile. Moi, mon autre grand-père, le père de ma mère, était résistant et il avait du mal à parler de ça. Et pourtant, il vivait aussi dans cette résistance, dans le fait d'avoir été aussi un résistant de la première heure. Je pense
il y a une certaine pudeur et même de la modestie, parce qu'on ne veut pas la ramener non plus de se glorifier pour des choses qui leur paraissent naturelles. Vous ne résistez pas pour la gloriole quand vous risquez votre vie, c'est que vraiment vous avez quelque chose à défendre, enfin, il me semble.
Tout à fait.
Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que dans votre livre, vous avez beaucoup de témoignages. Et alors, ils ont tous des attitudes différentes. Je ne dis pas toutes différentes, mais il y a plutôt le camp de ceux qui le vivent pas trop mal, en étant fier et en le revendiquant presque. Puis il y a ceux qui sont plutôt inquiets, qui ont un peu, je dirais, tourné la page, mais quand même, c'est-à-dire qu'ils sont... ça leur donne un point commun parce qu'ils savent qu'ils sont juifs, ou que leurs parents ont souffert parce qu'ils étaient juifs, mais ils veulent pas en faire un étendard.
Mais je crois que personne, enfin la plupart des gens que j'ai interviewés se posaient la question de savoir s'ils avaient le droit de se plaindre ou s'ils avaient le droit simplement de parler, étant donné qu'ils n'avaient rien vécu directement. Donc c'est un peu ce que raconte Alain Finkielkraut dans Le Juif imaginaire, où effectivement on peut se rattacher à cette souffrance et à l'évoquer et en être fier, mais je pense que la plupart des gens c'est pas ça, c'est juste qu'ils souffrent vraiment et que c'est compliqué, ils sont claustrophobes, ils ont peur, ils ont des angoisses qu'ils n'arrivent pas à définir, ils ont peur de l'avenir, donc ils ont quand même eu affaire à des parents qui étaient traumatisés et donc qui avaient des réactions improbables et à des moments définis, enfin qui les ont pas forcément encouragés à s'épanouir. Donc oui, ils ont quand même souffert. Je pense qu'après leur réaction, elle
est-ce qu'elles sont pas dues à ce qu'on leur a raconté ou c'est vraiment intrinsèque quoi.
Il y en a qui décident de se convertir vraiment, enfin vraiment d'être religieux parce que ils ont l'impression que sinon... ils trahiraient, ou alors que leur judaïsme est tellement, est tellement mince qu'il n'y a plus que cette solution-là. Il y en a qui, au contraire, décident de s'éloigner de ça, mais il y en a qui, par exemple, qui s'engagent dans des associations, dans l'humanitaire, en disant, finalement, nous, on ne nous a pas aidés, donc je vais aller aider les autres. Mmh. C'est souvent des gens aussi qui ont une grande acuité politique, beaucoup d'altruisme, beaucoup d'empathie, qui sont intéressés par les mouvements...
phénomènes de société.
Voilà, exactement. Qui s'engagent beaucoup. Ça, c'est vrai que l'engagement revient énormément, ou sur le fait empathique de s'engager dans un travail qui est utile.
Ça vous dit quelque chose, Rachel Yehuda? Non? Eh bien, j'ai cherché, parce que je suis intéressé à cette question. Et c'est une... comment on appelle ça les personnes qui s'intéressent au cerveau et à l'ADN.
Ah oui.
Je ne sais plus comment ça s'appelle.
L'épigénétique sur l'épigénétique.
Voilà. Qui a découvert un marqueur, justement, épigénétique chez les rescapés de la Shoah. Donc c'est mesurable, c'est assez fou quand on y pense, c'est que le cerveau réagit. Et chez leurs descendants, un groupe plus exposé aux problèmes de santé mentale, en 2015, elle a évalué 32 rescapés, ainsi que leurs enfants adultes, en examinant le gène FKBP5. On ne me demandez pas ce que c'est, mais c'est le gène associé à l'anxiété et à d'autres troubles mentaux. Mmh. C'est extraordinaire.
Oui, c'est...
Donc, elle a fait des recherches.
C'est assez incroyable.
Je pense qu'avec son nom et pour cause, elle a vu que ça marquait physiquement, effectivement, que ce n'était pas une vue de l'esprit. Parce que c'est vrai qu'il y a... On peut faire de l'auto-persuasion, vous savez, c'est comme la méthode queer. Si on dit à une petite fille « Ah, t'es moche, t'es moche, t'es moche » pendant toute son enfance, elle va se trouver moche à l'adolescence, elle deviendra anorexique et elle se suicidera à 16 ans. Enfin, j'exagère, mais je pense que malheureusement, ça existe. Je parlais avec une amie ce matin qui me disait « Ah, nous, les femmes, on nous oblige à être minces. » Je dis « Mais non, on t'oblige pas à être mince, c'est dans ta tête. » Elle me dit « Non, 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 la société nous enjoint parce que sinon, on est mal vu parce que si, on mange pas les 5 fruits et légumes par jour, si on boit pas 6, etc. » Enfin, bref. Alors, je comprends très bien cette... ça aussi, il y a un peu... Il faut avoir à cette personnalité aussi pour ne pas répondre aux injonctions de la société. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut faire du sport, il faut...
Oui, c'est sûr. Hein.
Moi, je n'ai pas voulu faire de sport. Peut-être que... pour l'instant, je ne m'en porte pas plus mal. Mais bon, j'ai une nature qui fait que, Dieu merci, je n'ai pas besoin de courir de 20 km par semaine pour rentrer dans mes pantalons. Je suis content, mais j'ai peut-être d'autres problèmes physiques. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a malheureusement, on peut t'entourer, mais même tous les jours, de gens qui nous culpabilisent. Et en fait, c'est très mauvais. Si on écoute, les chaînes info tous les jours, il y a de quoi quand même perdre le moral.
Je pense qu'il y a, il y a une grande, il y a de quoi être très anxieux. C'est vrai. Comment imaginer que on serait dans cette situation même il y a 10 ans, quoi. Donc, c'est très.
Il y a l'anxiété transmise, alors en filiation. Et à l'anxiété du monde. Moi, je suis très réceptif, effectivement, quand j'entends des nouvelles. Quand on entend les infos, c'est la guerre demain, quoi.
Oui, c'est ça. Alors, il y a des moments où j'essaye de me dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien. Donc...
Ouais, c'est beau. soit tourner en dérision, ce que j'essaye de faire, ou à mon humble niveau, comprendre les choses et me dire que de toute façon, c'est toujours pareil, on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, on parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Pourquoi ? Parce que ça ne fait pas vendre. Vous ne vendez pas de journaux en disant « tout va bien, rentrez chez vous et faites la fête ».
C'est un vrai sujet quand même, parce que c'est ce qu'on dit, c'est que les optimistes ont fini à Auschwitz et les pessimistes à New York. Hein, donc c'est vrai que c'est une vraie question.
C'est une belle formule qui résume bien les choses. Les optimistes ont fini à Auschwitz. Allez, dans ceux qui ne sont pas partis,
ça va s'arranger. Ouais. Voilà. Donc c'est une vraie question. C'est une vraie question de savoir jusqu'à quand, comment est-ce qu'on doit rester, est-ce qu'on doit partir. C'est une vraie question.
Faut que je retienne cette formule. Oui. D'ailleurs, ce qui est atroce, c'est qu'à un moment, le gouvernement sous l'occupation avait demandé aux Juifs d'aller se signaler. Ça a été les premiers à partir après. Bien sûr. Que ceux qui ont dit non, qui ont fait un bras d'honneur, ils ont pu se sauver ou se cacher. Mmh. Et ça, c'est terrible, quoi, parce que quand on voit les injonctions que nous donnent aujourd'hui certains gouvernements, on se dit, mais aujourd'hui, je suis sûr que ce serait pareil. Hein.
Savoir, effectivement, quand est-ce qu'il faut désobéir, effectivement.
Non. Et pour moi, la nature humaine ne change pas. Aujourd'hui, c'est au nom de bons sentiments. Mmh. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait une doctrine, un principe, alors que aujourd'hui c'est toujours on veut faire le bonheur des gens malgré eux. Enfin, je trouve. Et c'est comme ça que commence le totalitarisme.
Sur certaines choses, oui, c'est bien sûr.
Il faut plus prendre de bain, il faut se vacciner, il faut manger comme ça, faut pas rouler au diesel. Enfin, non, mais ça commence, vous voyez, sur la vie intime. C'est pas aussi grave, je vais pas me permettre de faire des comparaisons, mais n'empêche que la pression autoritaire est souvent fondée sur des faux bons sentiments. Je pense que l'État ne devrait pas se mêler de la vie intime des gens, mais bon, encore une autre paire de manches. Oui, donc pour en revenir à ces traumatismes, ils ont une marque physique. Je ne savais pas qu'on trouve donc ce fameux gène FKBP5. Vous avez entendu parler, non ?
Oui, de l'épigénétique, du fait qu'effectivement, ouais. il y avait un héritage de génétique. Enfin, épigénétique, c'est quand même incroyable. Ouais, effectivement, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que vraiment, on hérite dans notre patrimoine de cette souffrance, en fait.
Réellement. Alors, comment vous faites avec vos enfants pour pas qu'ils s'enferment dans une victimisation ? Parce que malheureusement, à l'heure actuelle, vous savez, je crois que c'est Bruckner qui a écrit « Je souffre, donc j'existe ». C'est-à-dire que c'est la grande mode de trouver...
Oui, tout le monde veut être victime de quelque chose.
Voilà, tout le monde veut être victime. Il y a quand même une hiérarchie dans l'horreur. Hein. C'est pas la même chose d'avoir été... victime d'un Shoah que d'avoir été victime du fait qu'on a les pieds plats et que les petits enfants se moquaient de vous à l'école.
Je leur transmets l'histoire, enfin déjà la connaissance de l'histoire familiale et le fait effectivement de voir qu'on peut avoir de l'empathie et de la compassion pour tous ceux qui vivent quelque chose de difficile, mais que après par exemple le fait de s'intégrer, le fait que ma grand-mère adorait la France, se sentait extrêmement française, mon père aussi, que on est bien chez nous ici, en fait, on est en France et on est content, et tout ce qui est culturel français, la laïcité, tout ça, on les fait nôtres. Donc après, je pense que le fait d'apprendre l'histoire, de connaître son histoire, de connaître son histoire familiale et la grande histoire, ça fait pas de nous du tout des victimes, en fait, ça fait juste des gens qui savent se repérer dans le monde. Voilà. Donc, je pense pas du tout qu'ils portent en eux... Il y a de temps en temps, il y en a un qui me dit, moi, je vais dire à l'école, je dis, mais t'as pas apporté ça, en fait. T'as pas apporté ça. Regarde, si on prend les choses... Je comprends que ce soit important pour toi, parce que ça l'est pour moi, mais si on prend les choses, tu l'es pas du tout, en fait. Tu portes ce nom, tu as un grand-père qui l'est, mais il faut que toi aussi, tu sois plus grand pour savoir ce que tu choisis. Mais voilà, donc... Oui, je pense que c'est compliqué. Moi, c'est surtout que je suis effrayé de ce qu'on peut entendre, et surtout depuis le 7 octobre.
Je pense
que ça aussi, quelque part, ça a quand même réveillé tous les gens qui s'étaient peut-être éloignés du judaïsme. D'un seul coup, ils se sont dit que...
C'est peut-être le moment quand même de...
Ouais, d'un seul coup, ils pouvaient pas ne pas être concernés. Donc, voilà, donc... Je pense, mais il y a un des témoins qui dit ça, qui dit de toute façon, le judaïsme, quelque part, le grand-père est religieux, le fils ne l'est pas, le petit-enfant est athée, enfin, le petit-fils ou la petite-fille est athée, et puis d'un seul coup, il y a un élastique, et crac, ça revient, et voilà. Donc oui, je pense qu'on est quand même tous liés par ça, quoi, liés par cette histoire.
Parce qu'il y a, bon, faire sa crise d'adolescence et rejeter l'esprit familial... Mais il revient de plus belle vers 20 ans, en fait. Mmh. Et surtout quand on est à l'extérieur.
Mais je pense que c'est quelque chose, quelque part, même pour les gens qui ont eu des parents très compliqués, avec qui ils ne s'entendaient pas forcément, qui étaient très durs avec eux, c'est quelque chose qui les a toujours rapprochés, cette histoire-là.
Ouais. Nous allons écouter une très belle chanson.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Qu'ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous êtes en direct sur Radio Courtoisie. J'ai comme invité Emmanuel Friedman, qui a écrit un livre poignant qui s'appelle « Après la Shoah » aux éditions Une Autre Voix. Je vous laisse la parole. On lira un petit extrait.
Les enfants de survivants grandissent aux côtés de parents qui ont développé pour la plupart des angoisses, des troubles liés à leur histoire. Dans certains cas, leurs parents leur ont raconté ce qu'ils ont vécu, mais majoritairement, les parents sont restés silencieux. Cela peut sembler étrange, mais dans les deux cas, les enfants ont été confrontés à un stress équivalent. Comme l'expliquait Boris Cyrulnik, « Si je parle et que je raconte mon histoire, je traumatise mes enfants. Si je ne parle pas, je les angoisse. »
Oui, tout à l'heure, on l'a évoqué, effectivement. Et donc, vous avez essayé de transiger entre les deux.
Entre parler, voilà. Mais pas parler trop tôt, et essayer de m'adapter à l'âge de mes enfants et à leurs questions, effectivement.
Alors, on est dans une époque où, malheureusement, on pense à tout ça, parce qu'il y a comme des plats qui ont l'air de repasser. C'est terrible. Et évidemment, tout le monde pense au 7 octobre 2023, avec ce qui s'est passé. Alors, comment vous, personnellement, vous le vivez et quelles sont les conséquences sur votre vie actuelle?
Alors, ça a été, bon, déjà, ça a été terrible parce que je pense que les premières heures, on n'a pas pris la mesure de ce qui voilà, de la gravité des choses. Ensuite, mon premier réflexe, moi, ça a été d'envoyer des messages aux gens que je connaissais là-bas et de leur demander comment ils allaient, voilà. Et ensuite, ça a été aussi le fait de cacher à mes enfants mon désarroi. Ouais. Donc, plus on apprenait de choses, plus... je me souviens de ce week-end, enfin, c'était terrible, hein, c'était terrifiant.
C'était un samedi, je crois.
Ouais, c'était un samedi, je crois bien, ouais, c'est ça. Et donc, c'était terrifiant, donc j'ai essayé de leur dire qu'il s'était passé quelque chose en Israël, mais...
Ils ont conscience, Israël, déjà? On y reviendra sur...
Pas vraiment, ouais. Je pense un petit peu, je leur ai expliqué, mais pas vraiment, on n'a pas eu encore l'occasion d'y aller, et bon, je pense que ça va être un peu compliqué encore. Mais oui, je voudrais vraiment les emmener là-bas, leur faire découvrir ce pays magnifique. Mais oui, donc au début, ça a été, pour moi, ça a été vraiment très angoissant. Et plus j'en apprenais, plus j'étais... Enfin, je pense que ça a réveillé angoissé chez tout le monde, quelque part, le traumatisme de la Shoah à un degré, à un autre degré, parce que c'était plus un pogrom que comparable à la Shoah. Mais ça a été vraiment... Et je pense que ce qui a été très, très difficile, très vite, c'est de se sentir très seul, en fait. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'on pouvait se parler entre nous, mais que les autres, les gens qu'on pouvait croiser, ne prenaient pas la mesure des choses. Moi, je me souviens d'avoir croisé dans la rue des amis qui me disaient bah, « Qu'est-ce qu'il y a ? Ça n'a pas l'air d'aller.
Ah, » oui.
Bah, oui, enfin, voilà. Oui, mais finalement, je me disais bah, « Finalement, ils ne sont pas du tout concernés. Pour eux, c'est sans doute encore un détail de l'histoire.
»
Voilà, donc du coup, voilà, c'est ça qui a été très difficile. Et après, ce qui a été difficile aussi, c'était de dire à mes enfants « Alors maintenant, il va falloir faire très attention. » Je me suis pas trompée puisque même dans la cour de récré, effectivement, il y a des enfants qui sont venus les voir, qui leur ont dit que leur ont demandé de quelle religion ils étaient, leur ont dit que les juifs tuaient les enfants. Enfin, tout de suite, ça a été très violent.
Oui, vous parlez de l'insupportable 8 mai.
Voilà, c'est ça.
Affreux, ça.
Ça, c'est vraiment terrible aussi parce que 8 mai quoi. Enfin,
ouais.
Est-ce que on peut tuer en prendre en otage un bébé de 6 mois et son petit frère de 4 ans,
les
tuer,
ça.
Les étrangler dans des tunnels. Est-ce que 8 mai quoi. Enfin,
8 mai quoi.
Et là aussi,
c'est insupportable ça, le 8 mai.
Absolument. Et l'injonction que j'ai ressentie immédiatement de se justifier par rapport à la politique israélienne et à Benjamin Netanyahou. Mais moi, je j'ai rien. En fait, moi, j'habite pas en Israël. Ouais. Je n'ai pas vraiment à prononcer.
Ouais.
Et je trouve que cette injonction, elle est quand même incroyable, quoi.
Ouais.
Moi, ce que je vois, c'est les pogroms,
ouais.
Voilà, les pogroms sur des enfants, sur la prise en otage d'enfants, de femmes qui ont été violées, d'hommes aussi, d'ailleurs. Enfin, c'est terrifiant ce qui s'est passé. Donc, 8 mai, avec ce que vous faites. Alors déjà, le vous. Alors,
oui,
donc, vous, les Français, vous, les Juifs, vous,
ouais,
les... Voilà, enfin, ça aussi, ça a été hyper difficile.
Oui, d'essentialiser. D'ailleurs, c'est la définition du crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'on vous persécute pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous avez fait. La différence entre le pénal commun, vous commettez un délit, etc., c'est normal, on vous punit. Mais le crime contre l'humanité, au fond, on vous dit, voilà, vous êtes ceci, cela, vous êtes juif, vous êtes tzigane, vous êtes je ne sais pas quoi, et c'est ça qui est votre faute, mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Et bien ça, c'est un crime contre l'humanité. Et c'est terrible parce que ça revient.
Oui.
On vous regarde différemment, quoi.
Voilà, c'est ça, ça a été vraiment très très dur, et puis... Et puis après, par exemple, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai d'essayer de dire que cette laïcité que c'était inacceptable que des enfants soient touchés par ça dans une école primaire ou dans des centres de loisirs. Voilà, donc il a fallu essayer d'expliquer ça. Après, ça, je pense pas que ça. Enfin, je pense que là où on habite, il n'y a pas ce type de problème.
J'ai pas compris ce que vous voulez dire. Enfin, c'était inadmissible que des enfants
puissent parler de ça dans des cours de récréation, qu'on leur explique pas que.
Qu'on
les prenne à partie pour ce qu'ils étaient, quoi.
Alors, moi, c'est intéressant d'en débattre. C'est que moi, je pense que la laïcité ne résout rien. Je pense qu'il y a plus de compréhension parmi des religieux, quels qu'ils soient, que justement de laïcs. Parce qu'en fait, laïque, c'est une espèce de bouclier, de paravent anti-religieux. C'est-à-dire que tout ce qui est religieux doit disparaître sous un principe...
Je pense que c'est quelque chose de privé, de la religion.
Alors, dans ce cas-là, oui. Mais malheureusement, on fait de la laïcité une espèce de machine de guerre contre la spiritualité. Et ça me gêne beaucoup. Autant je suis d'accord pour dire que un pays doit pas être sous la tutelle religieuse, ça la laïcité à la française c'était ça, c'est-à-dire que voilà. Mais autant je pense qu'il ne faut pas commencer par interdire des religions parce qu'à ce moment-là c'est le commencement justement d'une pente, d'une pente.
Pour moi la laïcité c'est vraiment pas ça, hein. C'est vraiment de dire que ça n'a pas lieu dans le cercle public. Voilà.
Alors oui, mais c'est toujours pareil, à public et public parce que vous pouvez pas empêcher, je sais pas, des processions, des
crèches dans les mairies, moi ça me dérange pas du tout. Hein, le fait d'avoir des arbres de Noël, on est quand même une région chrétienne, dans un pays d'origine chrétienne. Donc c'est pas une laïcité.
Voilà.
C'est intégrisme de la laïcité.
Voilà. Et mais malheureusement, c'est là où je veux en venir. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension de la laïcité de certains qui en profitent pour être anti-religieux. Moi, dans ma ville, il y a des gens qui écrivent en disant « c'est inadmissible que les cloches sonnent à midi ». Comme vous dites, on est un pays chrétien, il y a toujours eu des églises depuis 800 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas... On va pas... Parce qu'ils sont venus habiter là, ils voudraient que les cloches ne sonnent plus. Enfin, je veux dire... Alors... Et vous savez, c'est une mentalité d'intolérance. Et en plus de renier, pour le coup, parce que ça vous touche, de renier son histoire.
Oui,
et
puis voilà. Noël, ça fait partie de la culture, de la culture en France. Enfin voilà, moi je trouve, nous on a toujours fêté Noël. Enfin ouais. Voilà, donc oui, je trouve ça complètement absurde. Pour moi, la laïcité, c'est vraiment ce qui est dans les écoles et qui empêche les enfants justement de se heurter avec leur propre religion. Donc c'est j'ai trouvé ça quand même incroyable que des gens viennent voir mes enfants qui n'ont jamais revendiqué ça en leur disant vous êtes de quelle religion parce qu'ils portent ce nom là quoi. Donc c'est difficile, mais bon.
Et vous fêtez quelques fêtes quand même en famille de fêtes juives, parce que vous...
Alors oui, j'ai décidé, justement, pour ne pas transmettre que les choses négatives, j'ai décidé qu'on allumait les bougies au moment de Hanouka et que je faisais des petits cadeaux à mes enfants.
Donc quand même, vous reprenez...
Oui, mais ça, alors c'est vraiment moi qui l'ai repris, parce que mon père ne l'a jamais fait. Ouais. Voilà, mais on fait... Pour les grandes fêtes, on fait quelques petites choses.
Mais votre père, il savait pour quelle raison, bien sûr, il avait été caché, mais lui-même ne pratiquait pas du tout, était communiste, donc plutôt laïcard.
Il a été communiste, jusque dans les années 50, des années 50, donc assez rapidement.
Et qu'il a compris ce qu'était que le stalinisme, il a peut-être arrêté.
Il a arrêté, il a arrêté tôt.
Mais, il n'a pas persévéré dans l'erreur.
Quand même. Il n'a eu aucune envie de pratiquer. Oui, c'était étonnant d'ailleurs, parce qu'il n'a jamais été non plus en Israël.
Par conviction ou par peur de redonner, de faire porter à ses enfants un fardeau dangereux, si je peux dire, pour lui.
Non, je pense pas. Enfin, pense vraiment qu'il n'était pas religieux.
Religion, c'est autre chose.
Alors que je pense que finalement, le fait de faire Hanouka, pour moi, c'est presque plus culturel que religieux, quoi. Et les enfants, c'est vrai, s'attachent à ça. Puis finalement, du coup, ils ont quelque chose d'un peu drôle. Enfin, voilà, d'allumer des bougies.
À quoi, Hanouka?
Hanouka, c'est la fête des lumières.
D'accord.
Et c'est à peu près la période de Noël. Ça tombe souvent à peu près en même temps.
Ça tombe bien. Et d'accord. Et alors, vos enfants, ils sont encore en âge petit, quoi. Ça s'étale quoi, de 12 à...
Ce sont des jumeaux, ils ont 10 ans.
Ah, ils ont des jumeaux, 10 ans. Bon, parce que comme c'est commode, pour les anniversaires, c'est bien.
C'est bien.
Et alors, ils vous posent des questions?
Il me pose des questions. Alors déjà sur leur grand-père qu'ils n'ont pas connu, sur le fait de savoir si eux ils sont juifs, justement on a été pour Hanouka, on a été rue des Rosiers. Non, c'était pas pour Hanouka, c'était pour le Nouvel An. Rosh Hashanah, on a été.
Rosh Hashanah, c'est le
Nouvel An.
C'est Nouvel An.
On a été rue des Rosiers, on avait acheté quelques petits mets pour. Ils étaient ravis. Et donc, ils se posent des questions. Je pense qu'ils sont intéressés. Après, c'est vraiment. Enfin, ce que je leur transmets, c'est vraiment des petites bribes aussi.
Ouais. Les enfants, après, ils posent beaucoup de questions. Pourquoi on fait ça? Pourquoi les autres ne le font pas?
Après, moi, j'ai quand même autour de moi quelques amis qui sont dans la même situation. Et du coup, j'ai l'impression que, bon, à l'école, ils sont un peu seuls, mais pas plus que ça, finalement. Ouais. Parce que j'ai quand même des copains avec qui, par exemple, ils font du judo, qui sont juifs aussi. Enfin, oui, qui sont juifs comme eux, d'ailleurs. Ils sont demi-juifs.
Et le centre, c'est-à-dire qu'il y a une certaine solidarité d'emblée?
Pas forcément, mais en tout cas, je leur explique. Je leur dis, vous êtes comme ce copain-là, comme ce copain-là. C'est pareil. D'ailleurs, ils sont juifs par leur père aussi. Donc, ils ne le sont pas comme vous, comme moi. Enfin, voilà. Ouais. Donc, autour de moi, j'ai l'impression d'avoir mis plus de petites pierres à l'édifice que mon père m'a dit. Que mon père, où c'était vraiment très...
Vous aviez quel âge quand votre père a... disparu?
J'étais grand, j'avais 35 ans.
Ah oui, donc quand même, oui, d'accord. Il vous a transmis le traumatisme, mais pas...
parce que tout ce qui peut être un peu joyeux.
Pas de culture.
Tout ce qui peut être un peu joyeux. Et ça, c'est vrai que moi, je l'ai découvert aussi en Israël, quand j'ai été en Israël la première fois.
Justement, je vais y venir. Vous avez eu envie d'aller en Israël. Et là, émerveillement, vous êtes senti vraiment chez vous.
Oui, c'est étonnant.
C'est presque métaphysique.
C'est étonnant parce que, Bon, alors jusque-là, pour mon père, bon, Israël existait, c'était un pays, il fallait qu'il continue d'exister, mais c'était pas du tout chez lui, il fallait pas y aller.
Enfin, d'abord, il est né où, votre père?
Il est né à Paris.
Oui, Paris, tout banalement, oui.
Ouais, ça lui paraissait très loin, sans un intérêt direct pour lui, en tout cas. Ouais. Et puis, bon, moi, j'ai eu envie d'y aller quand il n'a plus été là.
C'est ça, c'est toujours quand, au moment où les parents meurent qu'on recherche ses racines.
Voilà, qu'on fait des choses.
Ouais, et moi, c'est pareil, quand. La mort de mes parents, je me suis mis à faire de la généalogie. Alors j'avais déjà pas mal de choses, parce que bon... plus les parents s'éloignent, bah, plus on a envie justement d'intérioriser, d'explorer son passé. Ouais.
Voilà, donc effectivement, bah, c'est ce que j'ai fait. Hein. Du coup, j'y suis allé, j'ai par la petite porte, et puis j'ai été à Eilat, donc il y a plutôt une station balnéaire plutôt que.
Oui, voilà. Tranquille.
Et puis donc j'ai fait une petite excursion à Jérusalem, et c'est vrai que j'ai été complètement subjugué par cette ville. Quoi. J'ai, d'un seul coup, je me suis senti. Arriver chez moi presque.
Comme si vous aviez comme si vous étiez...
tout avait été un voyage long à travers la Russie, la Pologne, la France et tout ça, et d'un seul coup j'arrivais chez moi. Et puis surtout, ce qui était assez incroyable, c'est cette espèce de reconnaissance des gens que j'ai rencontrés là-bas, qui habitaient là-bas et qui me disaient non mais tu es juif en fait, tu peux faire ton Aïla, tu peux Aïla, je n'arrive jamais à le prononcer. Enfin, oui, tu peux venir aussi, vivre c'est... là-bas, il suffit que tu prouves que tu prouves la judaïté de ton père, voilà. Enfin, et d'un seul coup, j'étais reconnu.
Apportez-moi votre koutoubia.
Voilà, bon, manque de bol, ils sont pas. Bref, ils sont pas mariés à l'église, mais à la synagogue.
Ah,
pardon, voilà.
Alors, je pourrais partir.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, ils me reconnaissaient en tant que tel, et on avait des points communs, et il y avait des juifs qui étaient ultra religieux, d'autres qui l'étaient pas du tout, mais on avait tous des points communs. Ouais. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on ressent en France, où c'est difficile, où les communautés sont assez fermées. Voilà. Là-bas, tout le monde se parle.
Déjà, il y a un fait, au moins vous avez le tronc commun indiscutable.
Voilà, c'est vrai que c'est une question qu'on pose beaucoup en Israël, c'est assez drôle d'ailleurs. Vous êtes juif, et alors évidemment, on pose cette question-là en France, on se demande pourquoi on nous pose la question, donc on a du mal à répondre.
Mais
voilà. Et là-bas, une fois que vous êtes juif, vous êtes mon frère.
Alors, il y a la fameuse rivalité. Ashkenaz et Farad, c'est vrai ou c'est un mythe?
Moi, je ne l'ai pas ressenti, mais après, je ne connais pas la société israélienne de façon assez profonde pour pouvoir répondre
c'est
à ça. Mais... Oui, enfin, bon, voilà.
Je joue à la vérité si je mens, c'est Ashkenaz. Ashkenaz. Voilà, c'est drôle.
Bien sûr, j'ai entendu ce discours-là, mais. Ouais. Je pourrais pas répondre vraiment parce que après j'y suis retourné, mais pareil, j'ai rencontré beaucoup de gens qui me ressemblaient à moi, donc voilà, mais j'ai pas vraiment j'ai le sentiment que les Français ont peut-être un petit peu, enfin certains Français ont du mal à s'intégrer, ils sont beaucoup entre eux, mais
Et c'est vous parlez bien anglais, parce que là-bas
mais je pense que pour être vraiment intégré, il faut parler hébreu. Quand même.
C'est ce que j'allais dire. Là-bas, ils parlent hébreu officiellement, donc pas facile l'hébreu.
C'est très compliqué. Ouais.
Je me souviens d'un ami qui était prof d'hébreu. Je lui dis, j'en perds mon latin.
Ouais, non, c'est très compliqué. Ça, je suis pas sûr d'y arriver un jour, mais.
Donc vous êtes de cette génération qui revendiquait de façon, modérée, mais qui n'hésitait pas à aller fouiller, explorer votre histoire familiale et culturelle.
Oui.
C'est-à-dire que d'accord.
Oui, pour moi c'est très important. Après, là aussi, enfin, quand on m'interroge sur la politique israélienne, je suis très mal à l'aise en fait. Moi, j'ai été là-bas et c'est un pays magnifique et on rencontre des gens formidables et c'est un pays qui est magique. Après. Bien sûr que c'est un pays qui a des travers. Mmh. Bien sûr que c'est un pays où on aimerait bien.
C'est très injuste parce que on peut d'accord ou pas être d'accord avec la politique israélienne, mais à ce moment-là, c'est comme si je disais je suis pas d'accord avec la politique de Jacques Chirac. Pour autant, je vais pas rejeter le christianisme.
Voilà. Et puis et les droits de l'homme en Chine. Ouais. Et voilà. On a l'impression que les gens sont focalisés sur ce pays. Ouais. C'est un tout petit pays. Hein. C'est un tout petit pays qui est entouré de pays arabes. Donc, c'est quand même compliqué pour lui d'exister. Alors, avec tous ses travers et tout ça. Mais il y a une appartenance et c'est vraiment un beau pays. Quoi. C'est vraiment terrible de systématiquement leur amener à... Enfin, j'espère ne pas choquer les gens quand je dis ça, mais moi, quand...
Radio Courtoisie, et on peut dire beaucoup de choses.
Quand on me parle d'Israël, j'ai pas envie qu'on me pose des questions sur la politique israélienne, quoi. J'ai envie de parler des gens que j'ai rencontrés là-bas, j'ai envie de parler de la magie de ce pays, quoi.
Oui, tous les Français sont pas macronistes.
Et puis aussi de la... Comment dire ça, oui. Ouais, de l'énergie qu'il y a, quoi, du fait qu'on peut découvrir ce judaïsme qui est gay. Enfin, les gens sont gays là-bas, sont heureux. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ça, finalement, c'est quelque chose que...
Alors
qu'ils ne sont pas en sécurité, qu'ils font tous l'armée, hommes, les femmes, qu'ils risquent leur vie et que c'est difficile. Enfin, c'est un pays qui est vraiment difficile, quoi.
Il y a toujours le service militaire obligatoire, homme comme femme.
Bien sûr, ouais.
Et alors vos enfants, par rapport à ça, non, ils ne sont pas encore conscients. Israël, c'est lointain, vous leur en parlez?
Oui, je pense que c'est très lointain.
Ils sont venus avec vous ou...
Non, pas encore. Non, je ne les ai pas emmenés, je n'ai pas eu l'occasion de les emmener, mais j'aimerais bien les emmener là-bas, ouais. Ça me ferait très plaisir qu'ils découvrent ce pays. Après, tout est dangereux, quoi, voilà, mais bon, ça l'est un peu moins en ce moment.
Et alors depuis donc, le 7 octobre, est-ce que vous sentez que les rapports sont différents? Enfin, je parle en France. Par rapport à, peut-être, je ne sais pas, l'attitude que les gens ont, justement...
Moi, je pense que j'avais déjà fait le tri...
Avant.
En fait, ce qu'on a vécu avec le 7 octobre, on ne l'a jamais vécu aussi longtemps. Ouais. Mais on a déjà vécu des moments où il y a eu des attentats, où il y a eu l'intifada, où il y a eu des... Donc, finalement, je n'ai pas eu de grandes déceptions amicales. Voilà. Parce que finalement, j'avais déjà fait le tri, je savais déjà à qui j'avais affaire.
J'appelle la sélection naturelle.
Voilà. Donc, mais ce qui a été peut-être difficile, c'est cette inquiétude d'attentat cette insécurité. Voilà. Mais pas de façon... Enfin, amicalement, j'ai pas eu de... Voilà,
j'ai jamais vu d'Israélites faire des attentats en plein Paris. Hein.
Non.
Et je me souviens de... Alors moi, vous devez vous en souvenir, l'attentat à la rue Copernic. Et il y a eu quand même pas mal de morts. Et Raymond Barre avait eu cette parole malheureuse en disant « Je pense aux 6 innocents. »
Aux Français innocents.
Alors, c'est épouvantable. Les pauvres victimes, elles étaient coupables de quoi? D'aller prier dans une synagogue. Non mais
je pense qu'il y avait un fond d'antisémitisme. Voilà.
Bon, il a rétropédalé, il s'est excusé plus ou moins. Enfin, bon, on ne peut pas accuser peut-être d'antisémitisme, mais enfin, c'est vrai que c'est un réflexe complètement fou de se dire innocent. Non mais enfin, on rit, mais c'est bon. Et alors, vous pensez, oui, en France, il y a un fond. Alors, je parle soit c'est-à-dire l'antisémitisme de droite, l'antisémitisme de gauche, que je résumerais au fait que pour l'antisémitisme de droite, il est religieux, communautariste, et puis l'antisémitisme de gauche, c'est l'anticapitalisme, vu comme la caricature du juif banquier. Voilà. Vous trouvez que ça existe encore? Vous le ressentez?
Ce qui est terrifiant, peut-être, pour les gens... J'allais dire genre comme moi, mais j'aime pas cette expression. C'est cette espèce de trahison de la gauche, quoi. Trahison de l'extrême gauche, en fait. Ça m'ennuie de citer ce parti, mais voilà, LFI, c'est terrible. Enfin, je veux dire, c'est impardonnable. Ouais. C'est impardonnable. On peut pas pardonner à ces gens-là.
D'autant que c'est complètement électoraliste, quoi.
Voilà, c'est vraiment terrible. Alors après, l'antisémitisme d'extrême droite existe sans doute toujours autant, mais... là, en ce moment, ce qui est terrible, c'est vraiment celui de gauche, quoi. C'est vraiment celui d'extrême gauche, quoi. C'est vraiment terrifiant. Enfin, c'est impardonnable pour des raisons effectivement électoralistes. C'est de mettre des cibles dans le dos aux gens comme ça. Enfin, c'est horrible. Et puis, quelque part, c'est vraiment trahir parce qu'il y a énormément de juifs qui étaient à gauche. Enfin,
oui. C'est vrai qu'il y a un côté intellectuel de gauche, beaucoup porté par des juifs. Bon, ils en sont revenus aujourd'hui. Et comme vous dites, je pense qu'effectivement, je sais que les juifs ont l'habitude de beaucoup discuter. C'est pour ça qu'on est beaucoup de grands penseurs juifs, parce que vous avez dans votre culture le fait de débattre des questions. Bon. Et j'ai toujours été étonné, d'ailleurs, effectivement, de voir que... on s'oriente vers une gauche extrêmement antisémite. Alors, il y a le côté électoraliste, et puis il y a le côté aussi, je dirais, une certaine jalousie. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, une jalousie de classe. C'est-à-dire que, ça c'est bien français d'ailleurs, si vous réussissez dans la vie, c'est pas net. Soit c'est parce que vous êtes franc-maçon, soit vous êtes juif, soit les deux.
Ouais, ça c'est pire. Hein.
Non mais il y en a qui cumulent. Hein. Juif et franc-maçon, c'est quand même beaucoup. Et forcément, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Et ça, c'est, je sais pas si ailleurs, je n'ai pas habité dans d'autres pays, mais je trouve ça typiquement français. Vous avez réussi dans la vie, c'est pas par votre intelligence, c'est pas par vos talents.
Et par votre travail.
C'est voilà, pas c'est... par votre travail, c'est vous êtes un salaud. Vous avez fait quelque chose de pas net, vous avez entubé les gens. Vous avez... Non mais c'est terrible. Les Français préfèrent le type qui a gagné au loto sans effort en fait, en s'amusant à cocher des cases. Ah bravo, il a gagné 5 millions, très bien. Plutôt que le gars qui a trimé toute sa vie. Et bon, on lui dit en gros, salaud de riche quoi. Non mais...
Voilà. C'est, d'ailleurs, dans la plupart des gens que j'ai interviewés, pour les parents de ces gens-là, enfin les parents, donc, les enfants cachés, c'était hyper important que leurs enfants fassent des études, travaillent bien à l'école. Ouais. C'était vraiment une valeur hyper importante. Et je pense qu'effectivement, quelque part, les gens réalisent pas que s'il y a autant de gens issus du judaïsme qui ont réussi correctement, c'est parce qu'ils ont travaillé en fait, parce que bah c'était une valeur. Voilà.
Ouais,
bon après sur la finance et tout ça, oui c'est vrai que c'est vraiment, enfin c'est absurde tout ça. Et puis il y a des juifs pauvres. Enfin ça me fait penser au gang des barbares en se disant bah les juifs se connaissent tous et en plus ils sont tous riches.
Ah c'est ça. Oui c'est ça. Oui c'est tout à fait ça. Le gang des barbares, ils ont pris la qualité de juif comme un coffre-fort quoi.
Ouais, c'est...
En plus, évidemment, Rothschild, tout ça, ça n'aide pas. Si, là, vous parlez d'une cousine.
Oui, non, une de mes amies que j'ai rencontrée à la fac, qui s'appelle Rothschild, effectivement, et qui dit c'est vraiment terrifiant, mais elle ressent ça en
dit,
France.
Dès qu'elle dit son nom,
voilà, bah oui.
Ah, évidemment.
La famille,
ils ont besoin de rien. Alors, Rothschild, c'est quoi? C'est courant
C'est relativement courant, puis elle ne fait pas du tout partie de la famille des banquiers.
Oui, c'est ça,
banquiers,
c'est comme Dupont-Durand ou Martin en France. Quoi. On peut s'appeler Rothschild et pas être lié à la famille.
Et pas être riche,
c'est
quoi.
Ça. Il faut peut-être le dire, parce qu'effectivement, on a, comme quoi, c'est comme Louis de Funès dans... comment s'appelle ce film? Rabbi Jacob, là. Ah bah oui, ça m'a un peu lavé de certaines idées, des a priori.
Ouais.
Non, mais c'est vrai, pour moi, Rothschild, c'est forcément un banquier, qui international, de la franc-maçonnerie, judéo-social-maçonnique. Non, mais je dirais que jusque dans les années, on va dire, avant-guerre, quoi, dans la. Ouais, c'est ça, jusqu'à la guerre, en fait. J'allais dire les catholiques pratiquants, je pense qu'ils avaient, c'est pas de l'antisémitisme, c'est une idée préconçue du juif usurier, descendant du peuple déicide, on disait, alors que Jésus était juif.
Non, Jésus était juif.
De très bonne famille, d'ailleurs. Non, mais je pense qu'on leur apprenait ça au catéchisme et que c'est resté imbibé dans la culture commune d'un catholique d'avant-guerre.
Oui. C'est heureusement moins le cas maintenant, quand même.
Mais heureusement, je n'ai jamais vu de catholique se persécuter du fait nulle part il est dit qu'il faut persécuter les juifs. Alors que je pense qu'effectivement, ce n'est pas le cas dans d'autres religions. Et en plus, c'est là où je voulais en venir, le côté anti-religieux. Moi, je vois beaucoup de gens, mais c'est plus que du laïc. C'est pour ça que la laïcité, ce qui m'énerve, c'est que ça a été totalement dénaturé. Ils sont carrément anti-religieux. C'est-à-dire que pour eux, catholiques, musulmans, juifs, c'est pareil. C'est c'est du matérialisme pur et de l'anti-spiritualité. Mmh. Et eux sont beaucoup moins tolérants que des gens, religieux. Vous voyez ce que je veux dire?
Je pense que chaque religion vécue avec de la tolérance, enfin, il n'y a aucun problème, en fait. Je pense que la laïcité, c'est la bonne laïcité, enfin, la laïcité efficace, c'est vraiment le fait de respecter
toutes les croyances des gens, de respecter les gens.
Qui est d'ailleurs une
invention
chrétienne, enfin, pour ce que j'en connais, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et il me semble que nous avons en commun l'Ancien Testament. Voilà, ouais. Donc, bah, personnellement, je trouve que une filiation, c'est entre juifs et chrétiens. Alors, d'ailleurs, ça nous amène... Il y a beaucoup, je ne sais pas, mais il y a quelques juifs qui se sont convertis, peut-être par peur, je ne sais pas. Il y a des familles qui se sont converties, mais qui reviennent à leur judaïté.
Ouais, c'est un élastique, ce que disait disait souvent. Enfin, moi, c'est vrai que quand j'ai, ça m'est arrivé de fréquenter, enfin, d'aller deux, trois,
Monseigneur Lustiger,
ouais. il est resté. Enfin, il s'est vraiment converti, quoi. Mais, mais c'est vrai que souvent.
Mais il reniait pas du tout.
Non, il reniait, bien sûr.
Donc, c'est pas la différence entre le peuple et la religion.
Mais c'est vrai que souvent, enfin, moi, quand j'ai fréquenté un peu c'est beaucoup dire. Hein, j'ai été quelques fois rencontrer des libéraux qui essayaient de se convertir. Souvent, ils disaient oui, mais mon arrière-grand-père ou mon grand-père l'était, donc je suis légitime dans le fait de me convertir. Voilà, ouais. c'est amusant, quoi, parce que c'est vraiment là, on sent un espèce d'élastique.
Ouais. Alors, à l'inverse, que soit catholique ou autre, qui se convertirait juif, comment ça se passe?
Mais c'est hyper compliqué. Alors après, il y a plusieurs, plusieurs comme bon, les libéraux, c'est un peu moins compliqué.
Qu'est-ce
après
vous appelez les libéraux,
les juifs libéraux, c'est vraiment une désobéissance où les hommes et les femmes sont mélangés, par exemple, parce que sinon, chez les orthodoxes, les hommes sont en bas, les femmes sont en haut. Enfin, c'est voilà.
Ah, les femmes sont en haut. Une fois.
Ouais, mais du coup, ce qui se passe, c'est plutôt en bas, donc.
Ouais. Ah, d'accord.
Donc.
Les orthodoxes, c'est ceux qui ont la caricature, c'est le chapeau.
Oui, pas forcément. C'est désobéissance. Ouais. Oui, d'accord. Ça peut. Mais
c'est très strict, je crois.
Voilà, c'est très strict. Et alors là, pour se convertir, ça prend des années.
D'accord.
Quoi. Et
alors,
chez les libéraux, c'est moins. Je pense que c'est un peu moins sévère, mais c'est long quand même. Alors les gens comme moi, par exemple, donc ils sont plus. Enfin, ils sont acceptés, on leur explique tout de suite comment faire. À ceux qui ne le sont pas du tout, la conversion
Et puis, est plus des compliqué.
Ouais. Ah oui, plus compliqué. Puis il faut vraiment qu'ils soient très motivés pour y arriver. Quoi.
D'accord.
Alors, en gros, concrètement, il faut frapper plusieurs fois pour
qu'on vous ouvre la porte. Voilà. Ouais. Et alors ça, c'est dû à le fait d'appartenir au...
C'est pas du tout une religion prosélyte, en fait. C'est pas du tout une religion qui cherche à convertir les
gens. Ah oui, tiens, c'est vrai. Oui, c'est pas du tout une religion prosélyte. D'où le côté élitiste, je pense, qui ne complaît pas à des gens qui se sentiraient pas, qui se sentiraient exclus.
Je ne sais pas si ça va jusque-là, mais peut-être.
Non, mais vous savez, dès que vous dites que tiens, il y a un camp en plus parmi ceux qui réussissent, etc., et qu'on n'en est pas, il y a de la jalousie. Je pense que oui.
Après, oui, c'est compliqué. Hein. Enfin,
y a le fantasme.
C'est possible.
Et on sait bien que les juifs se réunissent le soir pour contrôler le monde, etc. Enfin, vous avez
Moi, je n'ai pas été convié jusque-là.
Vous n'avez pas été convié, vous? Vous voyez. non, mais on en rigole. Mais dans la tête des gens, moi, quand je parle, vous savez, il y a tout. Et franchement, parfois, on se dit, mais il faut remettre à jour leurs fiches, quoi. On va arriver bientôt à la fin de cette émission. Est-ce que vous voudriez dire des choses que vous n'auriez pas encore
Non, mais je crois qu'on a fait le tour. Enfin, je crois que vraiment ce qu'il faut dire, c'est que il faut.
Je vais rappeler.
Pardon. Ouais, c'est vraiment essayer d'expliquer que le fait d'être victime, c'est pas génial en fait.
Non, ça c'est sûr.
Mais qu'on peut le transcender, c'est-à-dire que grosso modo, tous les gens que j'ai rencontrés, la plupart ont réussi à le transcender en cette espèce d'empathie, dans le fait d'avoir un travail.
Il y a un chapitre qu'on peut aborder rapidement, faiblesse ou force?
Oui, on peut se poser la question. Enfin, c'est vrai qu'il y a des... Ah. Je me souviens qu'il y a des gens que j'ai interviewés qui disaient c'est terrible de traîner une histoire comme ça. Bon, moi, je trouve aussi que quelque part, c'est une force aussi, parce que justement, j'ai un regard sur le monde, j'ai une espèce de sens de l'histoire, enfin, bon, sans m'envoyer des fleurs, mais je regarde les choses de façon un peu différente. C'est sans doute aussi pour ça que j'ai eu envie d'écrire.
Une compassion, hein, pour les persécutés,
voilà,
déjà.
Et une envie de raconter. Enfin, j'ai toujours écouté énormément ce qui se passait quand la famille venait. Essayé de mettre des liens entre les gens. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire, en fait. Donc, je pense que c'est une force aussi. C'est une force. Après...
Vous en avez fait quelque chose, c'est déjà bien.
C'est l'important, c'est de ne pas être déprimé, quoi, d'arriver.
Vous n'avez pas l'air déprimé.
Non, je sais pas, ça dépend des jours, mais non, là, ça va. Ouais. C'est le rabbin rapport, Pauline Beb qui explique ça, qui dit c'est très important. Enfin, c'est en fait c'est une des mitzvahs, c'est une des commandements,
traduisé,
des commandements du judaïsme d'être gay. On a l'obligation.
C'est vrai que la musique. Alors, il y a, comme partout, mais il y a des musiques très gaies, puis très mélancoliques. Ça va d'un côté à l'autre.
En même temps, quand vous assistez à un office, c'est assez gay. Ouais. Hein. Voilà. Donc, voilà. C'est vraiment se rendre compte aussi que c'est aussi un devoir d'être gay, un devoir de faire partie de.
Devoir de joie.
De joie et de. Voilà. De porter cette histoire parce que. On la
chez les
cathos,
il y a un triste saint. Non, un triste saint est un saint triste. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne doit pas, être dépressif, triste, etc. Voilà. On doit au contraire rayonner pour montrer qu'on peut transmettre la bonne parole. Non, mais c'est bien. Au moins, vaut mieux ça que de tirer la tronche. Hein. Et autre chose que... Non,
je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Je serais ravi que vous lisiez tous ce livre.
Je rappelle, bien sûr. De toute façon, tous ceux qui éprouvent à un moment ou à un autre le sentiment que dans leur passé, proche ou plus lointain, il y a eu quelques traumatismes par, je ne sais pas, une épreuve douloureuse, intime ou une persécution sociale. Moi, j'ai appris, je me suis rendu compte à l'âge de 13-14 ans, ce que ma famille avait subi pendant la terreur. Hein, parce qu'il y a eu des raccourcis, comme on dit familièrement. Ben, je me suis dit, si j'étais né à ce moment-là, qu'est-ce que... Voilà. Et là, oui, on a peut-être 2-3 minutes pour aborder l'histoire. Vous vouliez aborder l'histoire des résistants pendant
oui,
la guerre.
Oui, ça, je pense que c'est une vraie question. Allez-y, c'est une question que tout le monde se pose, beaucoup de gens se posent en se disant, mais... Moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais résisté? Est-ce que j'aurais eu le courage de résister? C'est un peu la chanson de Goldman, hein, quand il dit qu'est-ce que j'aurais fait, si j'étais né en 1920 à la Dunstadt. Voilà. Qui on est pour savoir comment on aurait réagi? Et est-ce qu'on aurait eu peur? Est-ce qu'on aurait eu envie de protéger nos enfants et de rien faire? Mais je pense que c'est très important de se poser ces questions-là. Après, il ne faut pas qu'elle l'empêche de réagir et qu'elle déprime. C'est vraiment des questions, mais c'est des questions qui sont hyper importantes, quoi.
On ne se connaît soi-même que dans l'épreuve. Hein.
Absolument. Enfin, je pense que...
Moi, ça m'agace quand on juge les gens 80 ans après. Bah oui, c'est facile. Quand on connaît la fin de l'histoire, c'est facile d'être du bon côté. Hein.
C'est 40
exaspérant.
Millions de gaullistes.
Alors qu'avec des attentistes, connaissant le français, en général, on attend. Hein. Donc, non, c'est exaspérant. Et puis, quand on voit récemment, il y a 3 ans, maintenant 5 ans, au moment du confinement, des gens qui étaient capables de dénoncer leurs voisins parce qu'ils invitaient plus de 6 personnes à table. J'ai connu ça. On se dit, attendez, moi, je peux vous dire, je fais un métier où je reçois des lettres anonymes pour dire monsieur machin n'a pas respecté le permis de construire et tout. Non, mais ça n'a pas disparu, hein, la saloperie humaine, la noirceur de l'âme humaine. C'est pour ça que je dis la nature humaine ne changeant pas, à toute époque, malheureusement, tout peut revenir. Tout peut revenir. C'est pour ça que, voilà.
Espérons que le contexte ne permettra pas que. Voilà.
J'espère, on est quand même en France, merde. Et malheureusement, on a un président qui n'est pas très courageux de ce côté-là. Hein. Et ça, franchement, c'est pas sa gloire. Je rappelle pour les auditeurs, mon invité Emmanuel Friedman, qui a écrit « Après la Shoah, le traumatisme en héritage » aux éditions Une Autre Voix. Voilà, à mettre entre toutes les mains qui s'intéressent à l'histoire, bien sûr, à la société et à ce qu'on peut ressentir quand on a un héritage lourd de traumatisme. Je vous dis à dans 4 semaines.
Merci beaucoup.
Et puis, bonne année. J'avais pas encore souhaité une bonne année, mais enfin, qu'on la souhaite ou qu'on la souhaite pas, ça change pas grand chose. Mais enfin, on est encore en janvier. Merci et à dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le libre journal de Charles-Henri Deslois, sous-titré « Le bal des facétieux », diffusé en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 22 janvier 2026, de 19h30 à 21h, et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.